Par actualité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du mois d'octobre, 4 octobre 2017. Ici Hélène Denis et en manchette aujourd'hui, une résidence d'accueil se bute à un règlement municipal. Étouffement alimentaire, plus de 120 décès en 3 ans au Québec. Troubles du spectre de l'autisme, la course vers les services spécialisés. Aussi, au national et à l'international, être aveugle et journaliste, Pornhub développe son porno pour malvoyants. En entrevue, j'aurai le plaisir d'accueillir Michaël Dulin, chef d'équipe du bureau de Montréal à l'étape, qui organise une formation commis-bouché pour personnes sourdes, et Geneviève Gauthier, qui viendra nous parler du guide de l'employeur de l'association Dysphasie Plus. Une nouvelle tirée de vivamedia.ca, une résidence d'accueil se bute à un règlement municipal. Vicky Savoie est accréditée comme ressource de type familial par le CI3S de la Montérégie-Ouest. Elle héberge 4 personnes vivant avec une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l'autisme. Elle s'est lancée dans l'aventure en février 2016. Depuis qu'elle a déménagé au Cèdre cet été, elle a frappé un mur. Vicky Savoie encadre ses résidents 24 heures sur 24. La rétribution financière qu'elle reçoit pour prendre soin de ses résidents, qui est versée par le CI3S de la Montérégie-Ouest, lui suffit pour vivre. Jusqu'à cet été, tout allait bien. Elle habitait à Vaudreuil-Dorion et hébergeait 3 personnes. Pour accueillir plus de personnes, Vicky Savoie a décidé de déménager. Les institutions bancaires n'ont pas voulu lui accorder un prêt hypothécaire parce que cela faisait moins de 2 ans qu'elle était résidente d'accueil. C'est donc une résidence d'accueil. C'est donc une amie et son frère qui ont acheté la maison au Cèdre. Vicky Savoie s'est installée comme locataire. En juillet, Vicky Savoie a appris l'existence du règlement municipal des Cèdres, lui interdisant d'être une résidence d'accueil si elle est locataire. Sa propriétaire a 10 jours pour la mettre dehors ou pour que Vicky Savoie devienne la propriétaire. Une autre option proposée par la ville serait que Claudia Levac devienne la responsable de la ressource de type familial, mais cela est impossible selon Vicky Savoie puisque cela la priverait de son travail. Si la situation n'est pas régularisée après le délai, des constats d'infraction pourraient être donnés. Autant pour les intervenants, les services sociaux et mon syndicat. C'est le premier cas qu'ils voient, souligne Vicky Savoie qui a lancé une pétition pour faire changer le règlement municipal. Selon Jade Saint-Jean du CI3S MO, il y a 430 ressources intermédiaires et ressources de type familial sur le territoire. C'est la première fois que le CISMO est informé d'un tel règlement dans une municipalité. Étouffement alimentaire, plus de 120 décès en 3 ans au Québec. Il fait beau, Guy mange son poulet au centre où il réside, il s'étouffe, meurt. À l'autopsie, on trouvera des morceaux de viande dans ses voies respiratoires. La nourriture s'est engagée du mauvais côté, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Le scénario est nettement plus répandu qu'on pourrait le croire. Durant les 3 dernières années, 121 personnes sont mortes étouffées par de la nourriture au Québec. 6 morts sur 10 sont survenues dans un CHSLD, un hôpital, une famille d'accueil ou une résidence privée de soins. Dans 2 cas, des personnes sont mortes dans des camps de vacances spécialisés. Si la viande est en cause dans 20 cas d'étouffement alimentaire, l'aliment qui tue le plus est le pain. Presque 1 personne sur 4 qui est morte étouffée venait de manger différents types de sandwich ou la rôtie du matin qui revient sur plusieurs rapports de coroner. Devrait-on sortir tous les grille-pains des résidences de soins? Pas du tout, répond Amélie Giraud, présidente par intérim de l'Association professionnelle des nutritionnistes experts en dysphagie. La clé, dit-elle, tient dans un bon dépistage à l'admission et un suivi constant de la condition du patient qui évoluera. « Je m'entretiens maintenant avec Michaël Dulin, chef d'équipe du bureau de Montréal à l'Étape, qui est un service d'intégration et de maintien en emploi pour personnes ayant une déficience physique ou sensorielle. Bonjour, Monsieur Dulin.
Bonjour.
Alors, première question, comment fonctionne votre organisme intitulé, que vous avez nommé l'Étape?
Oui, mais en fait, l'Étape, on est un organisme à but non lucratif, financé par Emploi Québec. Et c'est ça, comme vous le disiez, notre mission, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap dans leur intégration et leur maintien en emploi.
Mm-hmm. Et avant de parler de la formation Commis Boucher, quelles sont les activités que vous proposez à l'Étape?
Mais en fait, les activités qu'on propose dans notre bureau de Montréal et de Laval, c'est d'accompagner...
Vous avez deux bureaux? Vous avez deux adresses?
Oui, on a un bureau à Montréal et un bureau à Laval. Mm-hmm. Et en fait, ce qu'on propose en fait aux participants qui s'inscrivent à nos services, c'est de les accompagner dans toute leur recherche d'emploi ou leur projet de retour aux études et ou des fois aussi leur projet de démarrage d'entreprise.
D'accord. Vous êtes là pour les accompagner et assurer un suivi.
Exact. On est là pour les aider à définir leurs objectifs professionnels, à faire leur CV, lettre de présentation, à se préparer aux entrevues. En gros, à les accompagner dans tout ce qui concerne leur démarche de recherche d'emploi.
Mm-hmm. Vous êtes combien d'employés en tout?
À nos deux bureaux, en tout, on est 17 employés.
Alors, comment se déroule votre formation Commis Boucher pour personnes sourdes?
Oui. Bien, en fait, c'est un projet qui a été initié par le CEFAC. C'est le Centre de formation de l'alimentation et du commerce du Québec qui nous a contactés parce qu'ils avaient un projet de formation de Commis Boucher et on trouvait intéressant aussi de pouvoir proposer cette formation pour des personnes sourdes parce que il y a un gros besoin de main-d'œuvre et c'est un projet aussi c'est un type de métier qui peut convenir pour les personnes sourdes. Et
qui définit un projet qui peut convenir à une personne sourde versus un projet qui ne convient pas à une personne sourde?
Dans le sens où la communication, c'est pas un métier où il y a une communication qui est très importante, dans le sens où on peut être amené à communiquer avec ses collègues et son employeur, mais il n'y a pas de service à la clientèle important, il n'y a pas de contact avec la clientèle où il y a des communications qui sont nécessaires.
Bon, est-ce qu'il faut que les employeurs parlent la langue des signes du Québec, la LSQ?
La LSQ, oui. En fait, pour ce projet-là, on a des employeurs qui sont déjà intéressés à prendre en stage des personnes sourdes. Et ces employeurs-là sont d'accord aussi pour mettre en place certaines activités de sensibilisation auprès de leur succursale pour sensibiliser les gens à la communication avec des personnes sourdes, pour faciliter la communication. Donc non, les employeurs n'ont pas l'obligation de parler, de communiquer en LSQ, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que les personnes, si elles s'intègrent durablement dans leur emploi, on s'attend à ce que les employeurs ou les employés, collègues en fait, connaissent quelques signes de base de la LSQ.
Mm-hmm. Et dans la formation que vous donnez, est-ce qu'il va avoir un aspect plus concret, un stage en boucherie?
Oui. Ben, en fait, c'est une formation de 20 semaines. Et donc, il y a 12 semaines de formation théorique qui vont se dérouler au centre de formation. Et ensuite, il y aura 8 semaines de stage. Et durant toute la formation, il y aura un interprète qui sera présent pour traduire en LSQ que dira le formateur. Et ensuite, durant le stage, il y aura aussi un accompagnateur qui communique en LSQ et qui oralise aussi. Donc, il pourra faire le pont entre les employeurs et aussi l'employé qui sera intégré.
Est-ce que des personnes sourdes qui se sont manifestées, qui ont manifesté leur intérêt à cette formation?
Oui, il y en a déjà quelques personnes qui sont intéressées, qui se sont inscrites à la formation, mais on a encore des places de disponibles. Donc,
comment participer donc?
Oui, ben en fait, les personnes qui sont intéressées peuvent communiquer avec moi. Elles peuvent trouver mes coordonnées sur le site Internet de l'Étape.
Est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone?
Oui, ben pour les personnes entendantes qui connaisseraient des personnes sourdes, mon numéro de téléphone, c'est 514-526-1000. 0887 au poste 318.
514
Et
526 0887 poste 318 si vous êtes intéressé à la formation Commis Boucher pour personnes sourdes.
Exact. Puis pour les personnes sourdes, ils peuvent me communiquer par courriel ou ATS.
Très bien. Alors, Michaël Dulin, bonne chance. Puis, j'aimerais bien vous reparler à propos de cette formation et comment la suite des choses, s'il y a des personnes sourdes qui ont été embauchées dans des boucheries et comment ça s'est passé.
Avec plaisir.
Au plaisir.
Merci beaucoup.
Merci. Une nouvelle tirée de GranbyExpress.com. Au moment où l'attente s'étire pour les familles des professionnels œuvrant auprès d'enfants âgés d'âge préscolaire présentant un trouble du spectre de l'autisme, TSA s'inquiète du fait que plusieurs jeunes patients intégreront vraisemblablement les bancs d'école sans encore détenir un diagnostic. Le Centre de la petite enfance, le Grand Chapiteau de Granby, a mis en branle le groupe Tremplin, visant d'abord à faciliter l'intégration d'enfants vivant avec un handicap. Il est désormais consacré à 5 enfants diagnostiqués TSA ou en voie de l'être, alors que 8 autres sont intégrés au sein d'un groupe régulier du CPE. Chantal Pontbriand est directrice générale du CPE depuis 15 ans. Elle raconte que les parents prenant conscience du défi majeur qui attend leur enfant à l'approche de leur entrée à l'école sont nombreux à se retrouver pris au dépourvu. Ceux-ci se pressent alors à obtenir de l'aide. Elle leur conseille de mettre en branle le processus visant à obtenir des réponses bien avant cette transition. Selon elle, le milieu scolaire moins souple que les CPE pourrait donner du fil à retordre à un jeune élève dont les difficultés ne sont pas formellement identifiées. Si le diagnostic n'est pas la réponse à tout, il permet toutefois de faciliter le travail des éducatrices auprès des enfants dès la petite enfance. Le diagnostic est très complet. On peut élaborer un plan d'intervention beaucoup plus précis pour accompagner l'enfant, explique l'éducatrice spécialisée chargée de chapeauter le groupe Tremplin, Emmanuelle Dorval. Le transport adapté et collectif des Marées dans l'Estran, en Gaspésie, pourra offrir des voyages nolisés à l'extérieur de la région. La Commission des transports du Québec a octroyé un permis en ce sens à l'entreprise d'économie sociale pour qu'elle puisse bonifier ses services. Actuellement, elle possède 2 minibus de 16 places et un taxi qui font du transport collectif et adapté dans ce secteur. 7 500 déplacements ont été réalisés en 2016. Le président André Richard se réjouit de pouvoir offrir ce nouveau service à la population de l'Estran. Il explique qu'il y avait de la demande pour ce service. André Richard croit que cette offre de transport nolisé aura des avantages pour les utilisateurs. Se lancer dans le vide pour la sclérose en plaques, c'était dans le journal de Québec.com. Plus d'une vingtaine de personnes ont décaladé les 12 étages de l'hôtel Delta à Trois-Rivières samedi pour soutenir la Société canadienne de la sclérose en plaques. Face contre terre, les participants ont descendu la paroi verticale afin d'amasser des fonds pour lutter contre la maladie. Il s'agissait de la 4e édition de cette activité de financement. Ce n'est pas parce qu'on est limité qu'on a des limites, a expliqué le président de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Mauricie, Denis Baribeau, qui est atteint de la maladie. Ça fait partie des nouveaux défis. Il faut amasser des sous pour une bonne cause et en plus, il faut affronter nos peurs, a renchéri Francine Lamarche, directrice de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Mauricie. Le but de l'activité était de sensibiliser la population à cette maladie chronique qui s'attaque au système nerveux central. À ce jour, il n'existe aucun remède pour la sclérose en plaques. Plus de 1 000 personnes souffrent de la sclérose en plaques en Mauricie. L'an dernier, le défi Décalade a permis d'amasser plus de 30 000 $ pour aider la recherche. L'organisme a précisé que le défi reviendra l'an prochain. L'entrevue maintenant se déroule en compagnie de Geneviève Gauthier, responsable au soutien pédagogique Association Dysphasie Plus. Bonjour, Madame Gauthier.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Et vous?
Oui.
Alors d'abord, peut-être nous expliquer la mission d'Association Dysphasie Plus, parce qu'on va parler avec vous plus précisément du guide de l'employeur de l'Association Dysphasie Plus.
Oui, dans le fond, notre mission à 10+, c'est vraiment de sensibiliser la population au monde de la dysphasie, qui est le trouble primaire de langage, et de vraiment défendre la cause et les intérêts de ses membres, parce que dans le fond, la réalité en dysphasie actuellement, c'est un diagnostic qui est relativement jeune et peu connu de la société. Souvent, quand on va parler de la dysphasie, 9 personnes sur 10 ne vont pas connaître ce que c'est. Donc, nous, on est vraiment là pour faire reconnaître ce trouble-là à l'échelle nationale, mais aussi de défendre les besoins parce qu'il y a encore beaucoup à faire dans le monde de la dysphasie actuellement.
D'où l'importance d'un guide de l'employeur.
Oui, exactement. C'est vraiment venu, dans le fond, d'une initiative de nos adultes qui sont membres de 16+, où est-ce qu'ils disaient qu'il y avait beaucoup de besoins dans le monde de l'emploi, parce que quand ils arrivent à l'âge adulte, il n'y a plus le réseau scolaire pour pouvoir les aider. Donc, ils se trouvent un peu dans un vide de service et ils nous nommaient comme quoi c'était difficile pour eux de vraiment faire connaître la dysphasie et que l'employeur soit sensibilisé à cette réalité-là.
Alors justement, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce guide-là? Quel est le message aux employeurs qui est véhiculé dans le guide?
Dans le fond, le message vraiment derrière tout ça, c'est vraiment pour enlever tous les préjugés défavorables au handicap, parce que souvent, ça va faire peur d'engager quelqu'un qui a un handicap. On a l'impression que ça va nécessiter beaucoup de ressources humaines, matérielles. Et nous, ce qu'on essaie de dire dans ce guide-là, c'est vraiment de faire, regardez, la dysphasie, oui, c'est un handicap, oui, il y a certaines adaptations à mettre en place, mais quand on est bien outillé ou quand on connaît moindrement ce que c'est, cette personne-là peut travailler comme tout le monde et elle peut se maintenir en emploi parce que c'est des personnes extrêmement dévouées, acharnées, qui veulent vraiment garder leur emploi parce que c'est tellement difficile d'en trouver un qu'eux, une fois qu'ils l'ont, ça va être les employés les plus fidèles qu'on peut avoir parce qu'ils veulent le garder. Ils ont une fierté de travailler pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment, dans ce but-là, c'est vraiment de sensibiliser et faire connaître c'est quoi les adaptations qui peuvent être mises en place, c'est quoi les forces de ces personnes-là. Donc, c'est vraiment dans un souci de sensibilisation et de reconnaissance de la dysphasie qu'on a fait ce guide-là.
Et comment vous l'avez réalisé, ce guide-là? Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez à l'écrire?
Oui, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était dans le cadre de mes études à la maîtrise. On devait trouver un sujet de recherche. Donc, moi, je me suis intéressée vraiment aux adultes dysphasiques. Et c'est en discutant avec 8 personnes que vraiment ils ont fait, nous, c'est le monde de l'emploi qu'on avait besoin. Et là, on essaie de trouver la façon la plus accessible de pouvoir construire quelque chose qui puisse rester dans le temps, que les personnes puissent utiliser vraiment autant les adultes dysphasiques que l'employeur ou les collègues. Et c'est vraiment par la discussion que c'est les adultes qui ont vraiment décidé, puis ont fait, ça serait un guide qui serait intéressant, un guide qui soit accessible, qui soit facile à lire, qui ne prenne pas 6 jours à un employeur parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça. Donc, c'est vraiment par la discussion à travers des ateliers. Et c'est vraiment, tout le guide a été construit par les adultes de vraiment c'est quoi les caractéristiques de la dysphasie, c'est quoi les forces, c'est quoi que les comportements qu'on doit privilégier comme employeur et tout. Donc, c'est vraiment par le biais. Et on a travaillé pendant 1 an de temps à l'élaboration de ce guide-là, mais ça venait vraiment d'une recherche de 3 ans sur vraiment tout ce qui se passe en dysphasie.
Un travail vraiment fouillé, sérieux. Quels sont les trucs, Mme Gauthier, les trucs faciles à mettre en place?
Dans le fond, ce qu'on va souvent nommer par rapport pour aider justement une personne qui a une dysphasie, parce que c'est beaucoup au niveau du langage, donc ça va être beaucoup au niveau des adaptations, parler lentement, éviter de donner, par exemple, 10 consignes à la fois. Des fois, on a tendance à vouloir dire, OK, tu vas aller passer le balai, après tu vas aller faire ça, après tu vas aller faire ça et tout. Et quand on revient, on a l'impression que l'adulte n'aura pas fait les tâches demandées, puis on va se dire, bon, il est paresseux, il n'a pas voulu le faire. Mais des fois, c'est trop d'informations
oui.
en même temps.
Ça n'a rien à voir avec l'incompétence.
Non, exactement. C'est vraiment juste, donne-moi 1 ou 2 consignes à la fois ou donne-moi une routine de travail visuelle avec les tâches à faire et je vais être capable d'y répondre facilement. Ou donner une personne de ressources. Si tu as des questions, va voir telle personne et tu peux après ça continuer à travailler. Mais une fois qu'ils connaissent leurs tâches ils travaillent super bien,
oui.
Exactement.
On peut le trouver où, le guide de l'employeur de l'association Dysphasie Plus?
Dans le fond, présentement, c'est vraiment, nous, on peut l'envoyer, si les gens nous écrivent sur notre page Facebook de Dysphasie Plus ou à notre adresse à info@dysphasieplus.com. Donc, vraiment, nous, on l'envoie à ce moment-là. S'ils veulent l'avoir en copie, on peut aussi l'envoyer via courriel.
Et en terminant, Mme Gauthier, du 10 au 17 octobre va avoir lieu la semaine de la dysphasie. Qu'est-ce qu'on va y retrouver?
Oui, dans le fond, c'est notre deuxième édition pour la semaine de la dysphasie. Donc, ça a commencé, cette initiative qui a commencé l'année dernière. Et chaque région a des organismes en dysphasie. Donc, vous pouvez aller sur le site du regroupement Langage Québec, qui est le regroupement qui chapeaute tous les organismes en dysphasie. Mm-hmm. Et comme par exemple, nous, dans la région de Laval, Montréal, on va offrir des cafés-rencontres pour les adultes, les parents. On va offrir des formations. Plusieurs d'entre elles vont être gratuites, justement, parce qu'on veut avoir le plus de gens possible pour faire reconnaître ce diagnostic-là.
Bon, on va avoir l'occasion d'y revenir du 10 au 17 octobre, la semaine de la dysphasie et le guide de l'employeur de l'association Dysphasie Plus qui est disponible.
Oui, exactement.
Merci beaucoup, Geneviève Gauthier.
Mais merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée. Bye-bye.
Être aveugle et journaliste, c'est sur le site d'iciradio-canada.ca. Rencontre avec le journaliste français Hakim Kasmi, aveugle de naissance, qui contribue à faire tomber les préjugés au sujet des personnes ayant un handicap visuel. Dans le studio de France Culture à Paris, c'est l'heure du bulletin de nouvelles de 12h30. Autour de la présentatrice, les journalistes, notes en main, se préparent à intervenir. L'un d'entre eux fait glisser à toute vitesse les doigts sur sa feuille car ses notes sont en braille. Hakim Kasmi est non-voyant. Pour devenir journaliste, un métier qu'il a toujours rêvé d'exercer malgré son handicap, il a dû travailler fort. Hakim Kasmi a du caractère, de la détermination. À l'époque où il poursuit ses études à l'Institut pratique du journalisme à Paris, il doit passer une entrevue avec Radio France qui l'embauchera pour un stage. Selon l'Institut canadien des aveugles, seulement le tiers des non-voyants occupe un emploi. Il faut dire que l'évolution de la technologie a rendu accessible un métier qui autrefois ne l'aurait pas été pour un non-voyant. Après ses années de stage et quelques contrats à plus court terme, Hakim Kasmi est embauché de façon permanente par Radio France, où il travaille par la suite dans les différentes antennes. Mais la plus grande satisfaction de Hakim Kasmi, c'est d'avoir été nommé grand reporter et d'aller faire des reportages à l'étranger. Mais il a d'abord dû convaincre ses patrons qu'il était en mesure de le faire. Des fois, je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de frustration. C'était dur parfois à accepter parce que pendant ces moments-là, on a l'impression d'avoir son handicap qui vous revient en pleine figure, dit-il. Hakim Kasmi répète souvent la même chose aux jeunes qu'il rencontre lorsqu'il donne des conférences dans les écoles. Il faut toujours tenter pour ne pas avoir de regrets. Moi, ça a toujours été un principe que je me suis fixé. Si j'avais écouté les gens, souligne-t-il, je n'aurais pas été journaliste, j'aurais fait kinésithérapeute. C'est un beau métier en plus, adapté aux non-voyants. Mais non, je vais tenter d'être journaliste. Au moins, si je n'y arrive pas, je n'aurai pas de regrets à 60 ans. Sur Slate.fr, Pornhub développe son porno pour malvoyants. Le plus important site pour adultes propose plusieurs fonctionnalités pour les personnes souffrant de troubles de la vue. Les pornos doivent être accessibles à tous les plus de 18 ans. C'est en tout cas ce qu'estime Pornhub. Pour n'exclure personne de l'accès à ces vidéos, la plateforme pornographique a développé de nouvelles fonctionnalités à destination des malvoyants, rapporte Ward. En 2016, le numéro 1 du porno avait déjà mis en place un système d'audio-description. Pornhub continue de multiplier ce genre de fonctionnalités pour toucher tout type de public. Pour les personnes qui souffriraient d'une déficience visuelle, la plateforme propose par exemple un outil permettant d'agrandir la taille des textes. Les daltoniens pourront de leur côté profiter d'un peu plus fort contraste de couleurs entre les images et l'arrière-plan ou la souris. Besoin d'accéder aux vidéos les plus vues ou aux films des porn stars, il suffit de le dire et la reconnaissance vocale vous conduit à la page demandée. Des raccourcis clavier visent eux aussi à faciliter la tâche des malvoyants avec notamment la touche « Échappe » qui permet un retour en arrière ou la lettre « S » qui lance une recherche. Croire que de telles fonctionnalités seraient anecdotiques sur un site porno, ce serait oublier le trafic qu'enregistre Pornhub chaque jour dans le monde. Selon le site d'analyse Alexa, Pornhub est le 38e site Internet le plus important du monde. Vieillir en santé revient pour une deuxième année à Montjoly. Le deuxième salon Vieillir en santé se tiendra ce jeudi 5 octobre de 14h à 20h au Centre Le Colombien de Montjoly. Santé, sécurité, vie active et prévention sont autant de thèmes qui seront abordés lors de ce salon qui vise à faire connaître aux personnes aînées et proches aidants les opportunités et services offerts sur le territoire. De 15h à 20h, il sera possible de participer à 3 ateliers et une conférence intitulée « L'éloge à la lenteur » avec Nicole Dubois. La programmation du salon est disponible sur le site de la Ville de Mont-Joli et sa page Facebook. Ce salon est organisé par la table Vieillir en santé Mitis, qui regroupe plusieurs partenaires dédiés au bien-être des personnes aînées. Alter Go et Vues et Voix mettent l'accessibilité universelle au cœur de la campagne électorale à Montréal. Aujourd'hui, Alter Go et Vues et Voix, en collaboration avec Canal M, que vous écoutez présentement, organisent un café accessibilité auquel sont conviés les principaux partis politiques municipaux. De 13h30 à 15h30, les organismes membres d'Alter Go ainsi que d'autres invités échangeront avec des candidats de l'équipe CODER et de Projet Montréal des engagements de leur parti en matière d'accessibilité universelle dans les secteurs du sport, du loisir et de la culture. Ce café accessibilité se tiendra au 525 rue Dominion, centre Oliver Jones, à la salle 100 au rez-de-chaussée. Je répète l'adresse, 525 rue Dominion, c'est au centre Oliver Jones. Ces échanges seront diffusés en différé et commentés sur les ondes de Canal M jusqu'au jour du scrutin, le 5 novembre. Ce café accessibilité est l'occasion de présenter aux différents partis la plateforme de demande commune préparée par Alter Go, les organismes membres et les partenaires. Cette plateforme électorale a pour but d'encourager les personnes candidates aux élections municipales à s'engager à faire de Montréal un modèle connu et reconnu en matière d'accessibilité universelle et de ville inclusive. Sur l'île de Montréal, 32,9%, soit 275 840 concitoyens, déclarent avoir une incapacité. C'est la raison pour laquelle Alter Go souhaite connaître la position des partis, notamment en ce qui concerne la participation citoyenne des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Le café Accessibilité a pour objectif principal de s'assurer que l'accessibilité universelle occupe une place prioritaire dans la campagne électorale 2017. C'est un rendez-vous si vous voulez vous y rendre aujourd'hui de 13h30 à 15h30. Je répète l'adresse, 525 rue Dominion. Voilà, c'est ce qui complète les paractualités de ce 4 octobre 2017. Un grand merci à mes invités, Michaël Dulin et Geneviève Gauthier. Merci aussi à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson et à la technique Jean-Sébastien Laliberté. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée et je vous retrouve, je l'espère bien, demain.